3 heures, si je comprends bien, 3 heures ensemble. Et alors, aujourd'hui, je voudrais parler de la réforme, hein, de cet autre texte du Concile de Trente qui, lui, a porté non pas sur le Saint Sacrifice de la messe comme celui qu'on a vu, mais celui-ci sur le sacrement de l'Eucharistie, le très saint sacrement. Alors, il est bon, hein, parce que là, on voit bien, c'est la troisième heure d'un certain parcours, hein, de se rappeler, d'avoir en mémoire un peu au moins cela, hein, en ce qui regarde la présence réelle, eh bien, ce que nous avons déjà, au moins les noms, hein, on n'a pas à voir tous les. Enfin, que c'était. Ça a plusieurs aspects. On a vu, d'une part, il y a Ambroise, hein, qui mettait sûrement devant le fait que, à l'autel, aux paroles même de la consécration, et comme il le dit, non pas par une création, mais par un changement, hein, il trouve que le changement, enfin, il y a un miracle plus grand à. Non pas à faire une chose à partir de rien, mais finalement en faire une autre à partir de ce qui est. Bon, alors il y avait Ambroise, et de notre côté, eh bien, on avait Augustin. Vous vous rappelez, devenez ce que vous êtes, hein, le corps du Christ, c'est-à-dire il y a un rapport entre, eh bien, ce qui est sur l'autel et alors, eh bien, ce que l'on est comme chrétien. C'était même la façon dont Augustin, hein, introduisait sa catéchumène. Vous voulez savoir ce que c'est? Ben, regardez ce que vous êtes, hein, ce que les sacrements ont fait de vous. Hein, voilà. Alors donc, voilà, ces deux tendances, hein, ou ces deux, on les a retrouvées alors à ce moment-là avec ces gens dont vous n'aviez probablement jamais entendu parler. Du même monastère, l'un s'appelait Radbert, hein. Bon, il était canonisé, on vous disait, j'ai appris ça récemment, et l'autre, Aratra. Tous les deux étaient des bons, hein. Tous les deux croyaient à l'Eucharistie, mais des accents différents, hein. Chez l'un, chez Radbert, eh bien, ce que est à l'autel, c'est vraiment, eh bien, le corps de celui qui est né de la Vierge Marie et qui a souffert sur la croix. Donc, on pourrait dire, il y avait un réalisme, on pourrait dire physiciste, hein, hein, en ce sens que si de fait, hein, eh bien, l'enveloppe, des espèces, hein, on pouvait l'ouvrir, ben, on aurait Jésus derrière. Hein, et les miracles eucharistiques, en un sens, hein, prouvaient cela. Avoir, mettons, un agneau immolé ou encore une hostie qui saigne. Voilà. Bon. D'un côté, cela. Et de l'autre côté, ben, Agram qui disait, ben, lui, oui, c'est vrai, tout ça. En même temps, eh bien, c'est tout de même en quelque façon différent. Il y a le corps du Christ tel qu'il est mort, puis tout de même, ce qui nous est donné. À l'autel nous est donné, dirait-il, in figura, en figure, on dira par la suite de façon sacramentelle. L'Église, hein, aura toujours, même malgré tout, pris position pour Adbert. Hein. Autrement dit, on va le voir alors avec Béranger de Tours lorsqu'il voudra passer. C'est le sacrement d'un point de vue uniquement comme ça, hein, comme symbolique, hein, eh bien, on va lui. Il va devoir faire une confession de foi, comme quoi, eh bien, ce qu'il mange, ce qu'il boit, hein, eh bien, c'est le corps du Christ, comme, un peu comme on me le disait moi-même aussi, hein, quand eh bien, il fallait jeûner, puis il ne fallait surtout pas mordre l'hostie, quoi, pour ne pas faire mal à Jésus. Maintenant, ce côté-là réaliste, peut-on dire. On voit bien que ça, c'est là. Alors arrive là, c'est vrai, on est arrivé, vous avez vu, avec Saint Thomas. Alors, je dirais, c'est à la fois Bon, on va le voir parce qu'au fond, ce n'est pas évident pour la suite, hein, mais on a eu ce mot kabbalistique, si on peut dire, hein, changement. Et un changement, ça c'est évident, hein, c'est ça qui est la prière eucharistique. Hein, on demande que ce pain et ce vin soient changés dans le corps et le sang du Christ. C'est les mots mêmes de la loi de la prière. En quoi consiste ce changement? Eh bien, c'est Thomas dirait, c'est un changement de substance. Comme on dit, eh bien, là, ce qui est là, à l'autel, c'est la substance même du corps du Christ. Alors la force, malgré tout, même si on ne comprend pas tout, hein, de saint Thomas, c'est au moins, eh bien, donc ça voulait dire, c'est réellement là, hein, mais ce n'est pas là d'une façon imaginaire. Autrement dit, comme si on pouvait voir Jésus derrière l'hostie, par exemple. Hein. Il est là, de façon réelle, on dirait substantiellement, mais, eh bien, donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas un changement de lieu et tout ça, hein, qui se passe. Jésus, le corps du Christ, ne se démultiplie pas selon le nombre d'Eucharisties, en le sens, ben voilà, il est là, donc, en substance, en son corps. Et alors, aussi, donc, son sang. Et accompagnant cela, puisque les paroles nous disent d'abord, ce qu'on consacre, ce n'est pas la personne du Christ, c'est son corps et son sang. Hein. Donc, d'après le sacrement, c'est tout à l'autel, le corps et le sang du Christ. Bon. Mais le corps et le sang du Christ, en même temps, mais voilà, ça s'isole pas de sa personne, de son âme, de sa divinité, et alors elles sont là. Voilà à peu près où on en est, hein, et on en arrive maintenant avec, comme je vous disais, c'est important, je crois, pour éviter en même temps les images parfois inévitablement, hein, parce qu'on ne connaît pas tellement les protestants, la plupart d'entre nous, et bien des images un peu simplistes, hein, sur ce qu'ils pensent eux-mêmes de ce qu'on appelle la présence eucharistique du corps du Christ qui serait présent donc dans le sacrement de l'autel. Donc, on voit alors, en tout cas, il y a une chose évidente, hein, et qui joue, hein, sur tout l'ensemble, voyez bien, la grande contestation de Luther, de la Réforme, elle a porté d'abord et avant tout sur le fait qu'à l'Eucharistie, on puisse faire quelque chose, offrir quelque chose. Hein. Tout ce qu'on peut faire à l'Eucharistie pour eux, c'est rendre grâce pour ce que le Christ a fait pour nous. Donc, autrement dit, c'est lui, une fois pour toutes, qui est mort pour nos péchés. On n'a rien à ajouter à cela. Hein. On n'a qu'à à l'accueillir, si on peut dire, dans l'action de grâce. L'Église a toujours cru, vous l'avez vu, hein, nous souvenant de sa mort et de sa résurrection, nous t'offrons. Hein. Il y a aussi un acte de l'Église, et comme le vit avec Augustin, en s'offrant, l'Église est offerte elle-même par le Christ, parce que c'est le Christ. Il y a quelque chose qui se passe, autrement dit, donc, à l'Eucharistie. C'est pas seulement rendre grâce. Alors, bien entendu, alors, donc, vous savez ça, et alors, on avait, donc, du coup, eh bien, l'accent sera mis sur le don reçu, parce que c'est ça, non pas ce qu'on fait, ce qu'on reçoit. Et donc, du coup, non pas sur l'aspect, le centre de la messe, on pourrait dire, hein, le sacrifice, mais, eh bien, sur la réception du sacrement. Hein, le fait que la messe est un repas. Faut dire qu'il n'a à ce niveau-là, Luther rappelait des choses, hein, qu'on avait oubliées, que la messe n'est pas seulement sacrifice, en même temps, eh bien, elle est repas. Et donc, il faut partir, eh bien, des gestes du Christ lui-même. Donc, je parle de Luther, en même temps, bon, il y a une grande différence entre lui et Calvin, pourtant, tous les deux, hein, partagent d'au moins deux convictions. Celle que je vous dis, hein, c'est que le fond, eh bien, il n'y a qu'un sacrifice, c'est celui du Christ. Deuxièmement, on pourrait dire, c'est la priorité de la parole, hein, de la prédication. Et en tout cas, tous les réformés, eh bien, seront allergiques à l'idée de transsubstantiation. Pour eux, ça sera leur sortir par les oreilles, quoi. Ce terme-là. Donc, j'en viens à Luther. Alors donc, comme je vous disais, Luther s'en prend violemment à cette construction philosophique qui est celle de Saint Thomas et qui est fondée sur la distinction en tout être qu'il est ici-bas entre substance et on pourrait dire, les apparences, les accidents, la quantité, la couleur, hein, la qualité, voilà. Hein. Ah, Saint Thomas faisait une distinction. Hein. On a les accidents encore du pain, réel, mais de fait, eh bien, c'est le corps du Christ. Alors, voilà ce qu'il dit, hein. Il faut s'en tenir à ce que le Christ lui-même a dit, tout simplement. Et donc, puisqu'en suivant, le Christ a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, dit-il, il faut s'en tenir au sens des mots. Donc, il s'agit donc de vrai pain, de vrai vin, hein, dans lequel la véritable chair et le véritable sang du Christ ne se trouvent pas moins. Pour nous, ce n'est plus du vrai pain, ce n'est plus du vrai vin. Hein. Pour Luther, c'est du vrai pain et du vrai vin. Dans lequel la véritable chair du Christ est là. Son argumentation, certains pères de l'Église l'avaient pris, il prend comme mode d'argumentation, eh bien, ce qui s'est passé à l'incarnation. Et je vous lis, il n'était pas nécessaire que la nature humaine soit transsubstantiée de telle sorte que la divinité soit contenue dans les accidents de la nature humaine. Mais l'une et l'autre des natures, de fait, sont déclarées véritablement intègres. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Dans le mystère de l'incarnation, vous avez un vrai Dieu, hein? Et alors vous avez un vrai homme. Hein? Vous n'avez pas seulement des apparences d'un homme, par exemple. Hein? Voilà. Bon, chaque fois qu'on a l'Eucharistie, voilà, il transposerait. Donc, vous avez le vrai corps du Christ et en même temps, vous avez du vrai pain. Hein, pas de problème, hein, on met les deux donc ensemble. Et voilà, je vous dis, pas qu'en même temps, c'est une belle conviction, je vous dis, hein, parce qu'il était prêt à mettre sa vie pour ça. Pour moi, donc, si je ne parviens pas à saisir de quelle manière le corps du Christ est dans le pain, j'enfermerai mon âme captive dans l'obéissance du Christ, autrement dit, captive dans l'obéissance à sa parole. Et m'attachant simplement à ses paroles, je crois fermement, non seulement que le corps du Christ est dans le pain, mais que le pain est le corps du Christ. Vous voyez, tout de même, hein, il engage, hein, donc c'est tout de même pour lui. Ce qu'on appelle la présence réelle, telle qu'il la comprend, hein, c'est tout de même en lien. Donc. Et alors, de ce point de vue-là, hein, tout contestataire qu'il est, on pourrait dire que de fait, Luther a une foi robuste en la présence du Christ, hein, et de fait, ça va lui mener des combats avec un autre dont je vous parlerai tout à l'heure, un nommé, donc Zwingli, donc. Hein, de Suisse, qui était plus symbolisant. Quoi. Il va même en arriver lui-même, hein, contre ce dénommé Zwingli, hein, pratiquement à accepter, enfin accepter, à faire sienne, cette espèce de confession de foi que j'étais ultra réaliste, qui avait été celle de Béranger. Hein. Si c'est le corps du Christ, eh bien, de fait, je mange le corps du Christ, je broie le corps du Christ, puisque le Christ lui-même l'a dit. Alors que c'est donc, on peut dire, il y a de ce point de vue-là, il y a espèce de fibre catholique chez Luther. Il est bon, me semble-t-il, je suis assez extérieur, parce que je ne suis pas dans les dialogues écuméniques et tout, mais il faut pouvoir, me semble-t-il, dans les grandes traditions protestantes, il faut bien distinguer, on pourrait dire, la tradition luthérienne, hein, Luther, hein, et comme vous allez voir après, la tradition calviniste, hein, hein, qui pensera différemment à propos de l'Eucharistie. Faut pas confondre les deux voies. Hein. On voit que les luthériens, comme spontanément, à leur manière, ben, croient à la présence du Christ, hein, à l'autel. Tandis que pour les luthériens, eh bien, j'expliquerai tout à l'heure, mais c'est tout à fait autre chose. Quoi. Bon, non seulement ils croient ça, mais voyez-vous, hein, ben là aussi, hein, vous vous rappelez, au début, on a parlé d'une façon de Irénée, hein, qui pense de façon assez réaliste les choses. Hein, et alors, qui dit, alors, comme Irénée, il va dire, mais voilà, notre corps, hein, eh bien, vivra éternellement, parce qu'il va ressusciter, hein, parce que précisément, eh bien, il a pris la nourriture de vie éternelle, qui est, eh bien, le corps du Christ. Donc, il met même un lien entre cela et alors la résurrection à venir. Voilà. Alors, une fois cela dit, j'en ai pas un catholique comme cela. Hein. Le problème, c'est qu'il y a un problème aussi. Hein. Voilà. Un des problèmes clés, voyez-vous, c'est que il n'y a pas. Hein, il n'y a pas de prière eucharistique. On répète les paroles du Christ à la scène et on passe immédiatement au Pater. Autrement dit, le Christ, il n'y a pas un moment, hein, où on pourrait dire, comme nous le croyons, le Christ est là, sur l'autel. Hein. On le voit bien. Après les paroles, la consécration, nous sommes là, le prêtre montre l'hostie, il y a tout de même déjà un geste d'adoration, non? Et un geste d'adoration. C'est la première adoration, hein, par rapport à toutes les autres adorations eucharistiques que l'on peut faire. Bon, il est là avant qu'on le consomme, hein, avant que l'on communie. Hein, alors que pour Luther, eh bien, il n'est là que dans l'acte même par lequel je le reçois au moment de la communion. Hein? Autrement dit, eh bien, il est dit, prenez, mangez, buvez, voilà, eh bien, c'est au moment où on mange, hein, hein, je veux dire, le pain béni, hein, enfin, disons, et à moins, eh bien, que le sacrement s'accomplit. Autrement dit, il n'y a pas de sacrement dans ce qu'on appelle, nous, la consécration. S'il y a sacrement, eh bien, il s'accomplit dans l'acte par lequel on reçoit. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Hein? Parce qu'il va rappeler aussi, du coup, aussi, qu'on oubliait trop. Hein? Hein? Et que même parfois, on partait à oublier, et qu'il a lutté à lui-même à rappeler. C'est qu'au fond, aussi, les sacrements, non seulement c'est des mystères de la foi, mais ça engage notre foi, hein, 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 notre foi de chrétien. Autrement dit, un sacrement n'est pas un automatisme. Hein, hein, ça implique l'engagement de la foi de chacun. Autrement dit, bon, à lui seul, l'acte de manger, hein, ne suffirait pas. Il implique, hein, une foi confiante dans les paroles du Christ. Or, les paroles du Christ, si vous vous rappelez un peu, à la scène, eh bien, c'est celle d'un testament où il donne sa vie, comme il a dit, pour la rémission des péchés, n'est-ce pas? Voilà, hein? Voilà. Et alors, et de fait, il fallait qu'il meure pour que le testament devienne valide. Hein? Voilà. Et c'est ça qui est l'Eucharistie. Alors donc, il faut autrement dit avoir une foi confiante dans les paroles du Christ, eh bien, donné pour vous en rémission du péché. Ce qui veut dire aussi ceci, ce qui est premier, ce qui est premier, ça c'est vrai pour l'Eucharistie, c'est vrai pour d'autres sacrements, ce qui est premier pour Luther, c'est tout de même la parole du Christ. On dirait, nous, la prédication de l'Évangile. Et de ce point de vue-là, eh bien, les sacrements, et on pourrait dire aussi de l'Eucharistie, viennent pour, comme une manière concrète de dire la foi que nous mettons dans la parole de Dieu. Autrement dit, c'est à un certain point de vue, c'est un réconfort psychologique. Puisqu'au fond, ce qui compte, c'est vrai pour le sacrement de paix, il sera pour le sacrement de confession et tout ça. Voilà. Mais ce n'est pas le prêtre qui donne l'absolution. En se confiant au prêtre, de fait, c'est la foi confiante qu'on met à la parole du Christ qui justifie. Ici, eh bien, c'est vraiment communier au corps du Christ, mais cela, eh bien, implique précisément la foi confiante en la personne du Christ qui lui-même, eh bien, nous accorde la rémission des péchés. On voit bien, il y a donc un lien. Donc, voilà, ça c'est, on pourrait dire. Alors, c'est bon de se le dire parce que dans la tradition, enfin, il y a beaucoup de luthériens, je crois, qui... sans avoir, parce qu'on voit bien, ce n'est pas tout à fait la position catholique, et pourtant, par rapport, ne serait-ce que le fait que le Christ soit à l'autel, l'adoration, le fait aussi que ce n'est pas, il faut la foi, mais ce n'est pas la foi à elle toute seule qui fait que, eh bien, que nous mangeons soit le corps du Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, il y a tout cela, mais on voit que du côté luthérien, la liturgie en général, elle est beaucoup plus proche de l'Église catholique que le culte calviniste, par exemple, qui est beaucoup plus austère, quoi, la parole, quoi. Et on voit, il y a sûrement beaucoup de luthériens, qui ne seront pas là à l'adoration eucharistique, mais qui, je dirais, croient. En tout cas, à ce que Luther dit, je crois fermement que non seulement le corps du Christ est dans le pain, mais que le pain est le corps du Christ. Voilà, retenons cela. Alors, vous avez ensuite, eh bien, un autre qui va être venu à nommer Zwingli. Donc, lui, il est de Zurich. Voilà. Bon. Et alors, est pour une conception, autrement dit, d'abord, qui remet en question, c'est évident, comme tous les autres, la transsubstantiation, que le corps de Christ, comme tel, puisse être là. En même temps, on pourrait dire, qui remet en question, eh bien, remet des faits des mots que Luther n'a jamais employés, mais parce que Luther, on pourrait dire, mais voilà, sa théorie, sa doctrine de l'Eucharistie, elle est que le Christ devient dans le pain, on pourrait dire impanation, ou on pourrait dire aussi, il n'y a pas conversion des substances, les deux substances sont là, le pain et le vin. Elle n'a pas le pain et le corps du Christ. Donc, on pourrait parler de consubstantiation. Enfin, tout cela, en tout cas, lui-même, eh bien, le met de côté et pense uniquement en termes, peut-on dire, du cœur des croyants et alors de ce que signifie le sacrement. Autrement dit, Luther prenait à la lettre les paroles du Christ à la scène, Zwingli, lui, les prend d'un point de vue strictement symbolique. Cela signifie mon corps. Ce qui est là signifie mon corps. concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple de sa part le montre clairement. Hein? Autrement dit, un bijou hein, qu'on reçoit du conjoint hein, en signe d'affection. Du coup, est précieux pour celui qui le reçoit ou celle qui le reçoit. Hein? Autrement dit, le corps du Christ aussi, il nous a donné là, hein, par mode de signification, comme le bijou signifie quelque chose hein, de celui qui donne par rapport à celui qui reçoit. Donc, on passe à un autre niveau à ce moment-là. Hein? Et alors, donc, du coup, il est rentré donc, en bagarre avec Luther. Hein? Luther s'est opposé hein, fortement donc, à Zwingli. Donc, vous avez d'un côté Luther, donc Zwingli, hein, qui dit qu'il est sur l'autel uniquement par mode de signification. Et alors, eh bien, vous aurez Calvin. Calvin, on pourrait dire, c'est l'Église réformée de France. Hein, hein, en gros, hein, l'Église en France, c'est Genève, c'est aussi la Hollande. Hein, voilà. Hein, c'est. Et alors, là, vous avez donc une liturgie, hein, un culte, je crois, beaucoup plus austère que là. Hein, et alors, tout de même, en même temps, on voit que Calvin aussi essaie de rendre compte, hein, ceci est mon corps, ceci est mon sang, trouver une voie mitoyenne, peut-on dire, entre Luther, un peu physiciste, hein, et alors l'autre, Zwingli, qui lui se veut hein, uniquement symbolique. Et alors, il rattache là pour une bonne part, donc, à Jean 6, un texte qu'on connaît, hein, sur le discours du pain de vie, hein, hein, en même temps, dans la ligne, la manière dont Augustin l'interprète, hein, c'est quoi qu'il en soit, la nourriture que nous avons est une nourriture spirituelle. Mais alors voilà, donc on mange spirituellement. C'est tous des mots qui sont justes, ça. Hein, hein. Non, de toute façon, même nous, quand nous allons communier, nous mangeons. Même spirituellement, hein, c'est le corps du Christ, en même temps, comme avec Augustin, c'est une nourriture spirituelle, quoi qu'il en soit. Bon, mais alors voilà, il rattachait très fort, lui, eh bien, à l'œuvre du Saint-Esprit. Hein. Donc, c'est pas facile, je vous lis comme ça les phrases, juste pour voir, parce que c'est comment les mots interviennent. Donc, il faut, dit-il, entendre l'œuvre de l'Esprit, qui dans sa communication ne dépouille pas Jésus-Christ de son corps. La communication, on n'aura jamais dans les textes que j'ai vus de Calvin, je n'aurais eu jamais le mot communion au corps du Christ. Hein. C'est la communication au corps du Christ hein, qui est de fait nécessaire à l'Église. Hein. Je crois qu'avec Augustin, on a vu que devenez ce que vous recevez, c'est l'Église. Hein. C'est d'abord eh bien, l'Église hein, qui, tout de même, est l'œuvre de l'Esprit et qui réunit, peut-on dire, le Christ, qui lui est au ciel. Ça, avec Augustin, hein, ça, pour lui, le corps du Christ est au ciel. Hein. Et donc, c'est l'Esprit lui-même qui unit ce qui de fait est à distance. Le corps du Christ qui est au ciel, et alors, eh bien, le corps, eh bien, qu'est l'Église. Donc, je lis une phrase ici ou l'autre. Alors, donc, il est au ciel. Que néanmoins, si éloignée de nous hein, qu'elle soit, la chair du Christ parvienne jusqu'à nous comme nourriture. Hein? Voilà. Est le fait de la vertu secrète de l'esprit. L'esprit unissant les choses qui sont séparées de lieu. Ainsi, à la scène, le Christ ne nous présente pas. Donc, de fait, ce n'est pas comme la rédresse Zwingli, un site vide, frustrant, mais il y déploie la vertu de son esprit pour accomplir ce qu'il promet. Et donc, de ce point de vue-là, le Christ est au ciel, mais par la vertu de l'esprit, hein, et qui de fait est le lien dans l'Église, eh bien, nous savons, nous participons, donc nous communions pas au corps du Christ, mais nous participons, eh bien, du corps du Christ. Hein. C'est l'expression, eh bien, que lui-même emploie. Donc, autrement dit, il y a un effort aussi chez Calvin, hein, pour rendre compte, hein, eh bien, des paroles, hein, du Christ donc, à la scène. Bien entendu, eh bien, cela, comme pour Luther, implique la foi. Hein. La mendication est un fruit de la foi et elle provient de la foi. Alors, maintenant, la, tout cela est beau. Maintenant, la, c'est toujours intéressant de voir y a ce qu'on dit et la manière dont on fait les choses. Hein. Hein. On voit bien que surtout dans l'Église calviniste, hein, eh bien, il ne peut pas... C'est la parole de Dieu qui compte. Hein. On rentre dans un temple calviniste, la première chose qu'il ferait, c'est tout de même eh bien, le pupitre. Hein, hein, hein. Le pupitre, le lieu d'enseignement, quoi, proclamation de la parole. Hein. Autrement dit, la scène sans la prédication de la parole, pour lui, est muette. Hein. Et alors, eh bien, du coup... Autrement, il disait si, le Christ ne parle pas au pain pour lui commander de devenir son pain, son corps, il parle à ses disciples et leur promet que ce sera là un témoignage de la communion de son corps. Ah, ce qui est donné là. Donc, pas de scène, hein, parce que eux, encore plus, Luther gardait le mot messe, ici le mot scène devient le mot hein, clé. Il n'y a pas de scène sans qu'il y ait donc la prédication de la parole. Alors, au nom de son principe, voyez-vous, de ce principe, entre autres, du lien qu'il y a entre la parole hein, et la scène, voilà, Luther rejette hein, ce qu'on appelle la réserve eucharistique, hein, ne serait-ce que pour les malades. Hein. Il dit que c'est une chose sotte et inutile. Hein. Pour lui, en tout cas, pour lui, hein, eh bien, l'adoration eucharistique est tout simplement une superstition, hein, à la fois contraire à l'Église ancienne et à l'Écriture. Quelle idolâtrie y a-t-il au monde, si celle-là ne l'est pas, adorer les dons au lieu du donateur, hein, s'arrêter à chose au lieu eh bien, d'adorer le donateur lui-même. Donc, on voit bien, il y a, j'en parlais tout à l'heure, il y a, s'il y a un respect, il n'y a aucune, autrement dit, le Christ n'est pas pour lui présent sous ce qu'on appelle, nous, les espèces. Pour Luther, ben, il est présent, le pain est là, mais il est là, on cohabite. Hein. Ainsi, il n'y a pas de cohabitation. Hein, hein, hein. C'est l'esprit hein, qui témoigne de tout. Alors, en même temps, on est devant ce fait que, eh bien, même s'il en parle lui-même de l'Eucharistie dans l'institution chrétienne, même si dans l'institution chrétienne, il proposait de faire de une célébration eucharistique, hebdomadaire de la scène, il va en venir hein, hein, ensuite hein, à la norme d'une célébration 3 ou 4 fois par an. En tout cas, aussi longtemps que les fidèles n'auront pas reçu la catéchèse suffisante pour voir ce que c'est. Donc, on voit, ça n'a pas, autrement dit, la scène du côté des églises calvinistes n'a pas la même place, autrement dit, que dans les églises luthériennes. Hein? Voilà le contexte. Arrive là-dessus le concile. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, il faut éviter de caricaturer. Hein? Peut-être que je le fais en partie, mais mon intention n'est pas mauvaise. Quoi, hein? je voudrais donner une chance. Une chance aussi. Hein. Même si ce n'est pas notre monde, les mots, vous allez voir, les mots n'ont pas toujours la même portée, mais enfin, il y a des mots. Hein. Il y a même des mots où on peut se reconnaître. Quoi. Bon. Alors, arrive le Concile de Trente. Vous voyez bien, bon, les deux grands points hein, qu'il a fallu protéger à tout prix, c'est de pouvoir réaffirmer en tout cas la présence du corps du Christ préalablement à sa réception, c'est-à-dire au moment de la communion. Autrement dit, ce n'est pas uniquement dans l'acte de communier hein, que le corps du Christ nous est donné, il est déjà là, donné à l'autel, hein, avec la consécration. Premier point. Et alors, deuxième, vous le voyez bien en lien avec ça, eh bien, c'est la pratique de l'adoration eucharistique. Alors, en gros, voyez-vous, hein, eh bien, il y a des choses que le Concile de Trente ne pouvait pas refuser, mais il ne pouvait pas abonder parce qu'il était pris au piège. Enfin, les protestants appuyaient sur le fait de la communion. Bah, prenez et mangez. Donc, de ce point de vue-là, c'était aussi une dimension qu'il fallait faire valoir. Mais en faisant valoir cela, on risquait en même temps eh bien, de tomber finalement sur une pelure de banane, quoi. Hein? Et alors, il n'y avait plus que la communion qui comptait, et on pourrait dire l'aspect du Christ présent là n'était pas là. Alors concrètement, vous voyez bien, ils avaient eu le problème. Hein? Tout ce qui touchait le sacrifice, vraiment, ça s'est fait comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu avec la réforme, parce que c'était tellement évident que la messe était sacrifice. Hein? Tandis que vous voyez bien que la question de la présence réelle, elle s'était déjà posée auparavant. En un sens, eh bien, Saint Thomas avait apporté une réponse, hein, bon, équilibrée. Eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de débats, finalement. On a repris, on s'est reconnu hein, dans la position thomiste, hein, qu'on appelle l'aristotélisme hein, de Saint Thomas, hein, la distinction. Entre la substance. Cet homme va parler d'accident, le Concile de Trente va parler d'apparence. Encore là, voyez-vous, c'est des mots qui ne marchent pas. Parce qu'à la fois, bon, le pain et le vin, ça, on va dire, j'y reviendrai tout à l'heure, le pain et le vin, après, c'est vrai, ce sont des apparences. Et pourtant, ils sont là. Hein? Vous ne mangez pas, quand vous prenez l'hostie, vous ne mangez pas des apparences tout de même. Hein? Si vous broyez, si vous mastiquez, vous voyez bien que c'est tout de même, ça a tous les effets d'un pain. Hein, il n'y a rien à faire. Hein. Et pourtant, et voilà, c'est le corps du Christ. Alors, donc, voilà où ils ont été. Et alors, donc, le Concile a appuyé donc, là-dessus. L'idée de transsubstantiation hein, qu'on avait donc, avec Saint Thomas, bah, il le dit encore, voyez-vous, je lis une phrase, hein, bon, on condamne, anathème, hein, s'il nie ce changement admirable et unique de toute la substance du pain en son corps et de toute la substance du vin en son sang, tandis que demeurent les apparences du pain et du vin, changement, hein, changement, le mot ici n'est pas, ça vient pas du magistère, c'est donc c'est la liturgie, changement que l'Église catholique appelle de manière aptissime, c'est-à-dire très appropriée, eh bien, hein, encore, c'est pas le mot, c'est encore le mot le plus apte hein, pour dire ce qu'on veut dire, le changement qui est là. Non, hein, c'est, en un sens, le mot transsubstantiation dans le contexte est devenu un de mot porte-étendard, hein, mais ça demeure, c'est un mystère. C'est une façon de le dire, hein, aussi apte que possible. Bon, il ne reste, je voudrais parler beaucoup d'autres choses, parce que c'est ça. Mais je voudrais tout de même, revenons, pour que ça fasse un peu, parce que là, à partir des années 60, vous aurez, surtout les catéchismes hollandais vont arriver à ce moment-là, une certaine manière de vouloir reformuler les choses, hein, et de vouloir rendre compte, voyez-vous, hein, l'idée de substance ne parle à personne, et donc de rendre compte du sacrement à partir eh bien, du pain lui-même et du coup des relations qu'on a avec lui. Bon, mais enfin, avant ça, je voudrais en venir tout simplement dire un mot sur le dialogue œcuménique, hein, parce que c'est ce qu'on peut. Hein. Alors, il y a eu, bien entendu, dans les 40-50 dernières années, hein, il y a beaucoup de rencontres œcuméniques. Je parlerai la fois prochaine, puisque la fois prochaine sera sur la communion, et bien de la question de ce qu'on appelle l'intercommunion, hein, ouais, hein, l'hospitalité eucharistique. Hein, à quel point un protestant peut venir communier à une table catholique, voilà, hein, ou vice-versa. Enfin, restons-en là, nous allons revenir. Hein. Mais, alors, donc, autrement dit, je prends ici un texte, parce que le père Bernard Cesboué, hein, que certains d'entre vous connaissent, hein, a suivi pas mal tous ces dialogues œcuméniques, ces rencontres œcuméniques, et en particulier, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait le groupe des Dombes. C'est une abbaye qui est près de Lyon et qui se réunissait tous les ans ou tous les deux ans en traitant des thèmes, hein, comme la papauté, la Vierge Marie. Et alors, ils avaient étudié précisément le thème de la communion. Hein. Donc, autrement dit, de la présence réelle. Alors, je vous lis une phrase de Cesboué ici. Hein. Bien qu'elle ne soit pas avec nous là, en pleine communauté, unité, hein, dont le baptême est la source, et que nous croyons que, en raison surtout, là, retenez cela, hein, en raison surtout de l'absence du sacrement de l'ordre, hein, gros obstacle, hein, hein, c'est tout de même le prêtre qu'on sacre. Pourtant, les églises, hein, elles n'ont pas conservé la substance propre et intégrale du mystère eucharistique. Hein. Cependant, même les communautés ecclésiales séparées, hein, il emploie le mot communauté ecclésiale plutôt que église, hein, lorsqu'elles célèbrent la Sainte Seine, le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ, elles professent que la vie consiste dans la communion avec le Christ. Autrement dit, ce qu'elles font n'est pas dépourvu de signification et de valeur dans le mystère du salut. Il se passe quelque chose là. Hein? Hein? Puisqu'au fond, eh bien, c'est fait donc dans la foi. Donc, il y a un manque. Hein? Mais dit-il, ce manque ne permet pas à lui seul de conclure qu'il n'y a aucune présence du Christ dans la célébration de la Sainte Seine. Bon, il faut toujours s'entendre sur le mot « présence hein, ». Hein. Il y aura un document, enfin, je pense que c'est « Mysterium Fidei », Paul VI, et bien sûr, précisément, à partir des contestations qu'il y avait, sur eh bien, la présence réelle dans le sacrement. Mais alors, le pape nous a marqué qu'il y a différents types de présence aussi hein, du Christ à son Église, quoi. Hein, dans l'écoute de la parole, hein, hein, dans l'amitié, autrement dit, elle est tout à fait spéciale, mais elle n'exclut pas aussi que le Christ soit présent à son Église, ou bien de d'autres façons. Alors, je lis à ce moment-là, hein, je continue. La présence du Christ est accomplie à la Sainte Seine par le don de l'Esprit invoqué par un pasteur ecclésialement institué. On voit bien à l'arrière-plan, hein, nous sommes, c'est à peu près 32 théologiens qui ont collaboré à cela pour produire ce document. On voit bien, maintenant, comment c'est que la plus, c'était en France, la plupart des non-catholiques qui étaient là étaient eux-mêmes de sensibilité calviniste, hein, hein, puisqu'au fond, on vient le don de l'Esprit par un pasteur ecclésialisé. Alors, il continue. Là, c'est lui-même qui parle en son nom propre. « Pour ma part, je ne me sens pas le droit de considérer le pain et le vin qui ont servi à la célébration protestante comme du pain et du vin ordinaire. Ils sont entrés à leur manière dans l'histoire du salut. Je crois que ça peut se dire. Hein? Hein? De la même façon que je dirais, ben voilà, je prends même l'exemple de Zwingli. Hein? Hein? Vous avez une bague, vous la faites maintenant. Elle est entrée, elle n'a pas changé. Hein? Le métal est toujours le même, mais elle est tout de même dans un entrée, dans un autre ordre de signification. Hein? Le pain n'a pas changé, et pourtant, en même temps, il est entré dans une histoire de salut. Quoi. Hein? Il est l'objet de la prière. Il a réuni des gens. Bon. Alors, vient alors à ce moment-là, ce texte-là, et alors on nous dit qu'on est parvenu à un accord substantiel. Je vous dis ça, puis après ça, vous verrez les réactions. Hein, c'est intéressant. Un accord substantiel, hein, sur l'Eucharistie. Hein. Alors, ce qui devrait faire que ceux qui se reconnaissent en lui, dans cet accord, ne devraient plus voir d'obstacle à l'hospitalité eucharistique, du moins pour une raison de foi eucharistique. De foi, peut-être, hein, hein. Mais enfin, redonnez les mots, parce que ça va revenir la fois prochaine. Hein. Alors, comme il a dit, pour mesurer la portée de cet accord, il faut avoir à l'esprit la distance qui a séparé les catholiques et les protestants jusqu'à maintenant, et donc l'avancée doctrinale. Alors voilà le texte, en gros. Nous confessons donc unanimement la présence réelle, donc c'est tout le groupe des 32 théologiens, la présence réelle, vivante et agissante du Christ dans ce sacrement. Voilà. L'autre phrase qui est importante tout de même probablement, hein. Le discernement du corps et du sang du Christ ne peut certes se faire que dans la foi, mais il ne dépend pas de la foi de chacun. Ça, après vous, c'est contre, on pourrait dire, Luther. Contre Luther, ça prend ses distances. Pas par Luther, ça prend ses distances aussi par rapport à, hein, à Calvin. Ça faisait dépendre donc. Donc ça ne dépend pas uniquement de la foi de chacun. Car le Christ qui se lie lui-même par ses paroles et dans l'esprit à l'événement sacramentel, signe de sa présence donnée. Donc il se lie lui-même à l'événement sacramentel qui est signe de sa présence venue. Alors, une autre phrase, je vous lis. C'est en vertu de la parole créatrice du Christ et par la puissance de l'Esprit, non, c'est le groupe qui dit ça, que le pain et le vin sont vraiment faits sacrement. Et là, c'est la phrase « et communication du corps et du sang du Christ ». Ils sont désormais dans leur vérité dernière, sous le signe extérieur, la réalité donnée et le demeurant en vue de leur consommation. Voilà. Et donc, autrement dit, au niveau de la cause première, qui est Dieu, mais voilà, en un sens, comme dit le Père Sasboué, ben, c'est changé. Mais en même temps, eh bien, c'est en même temps là, eh bien, ce n'est pas, il n'y a pas un changement, c'est sacramentellement que le Christ, eh bien, se rend présent. Alors donc, comme il le dit lui-même à la fin, d'où au début des attitudes et des pratiques, la conclusion à laquelle on arrive ce texte. Ce qui est donné comme corps et sang du Christ reste donné comme corps et sang du Christ et demande à être traité comme tel. Il continue. La formulation de cette affirmation a été le fruit de laborieux débats. Pour un calviniste, idolâtrie. Hein? Parce que ça me parle. Hein? Hein? C'est un signe, une porte dans l'esprit pour nous, mais comme tel, voyez-vous, alors qu'ici, il est dit, eh bien, ce qui est donné comme corps et esprit. Il n'est pas dit que c'est le corps et le sang du Christ, mais c'est né comme corps et le sang du Christ. Reste donné. Donc, même une fois la scène terminée, parce que c'est ça, hein, durant la scène, ça va, hein, durant la messe, ça va, mais une fois terminée, comme on dit, ben, ce qui reste là, bon, est-ce qu'on le met tout simplement à l'évier, quoi, hein, ou est-ce qu'on... On voit bien qu'on est devant des sensibilités très différentes. Hein. On n'a pas d'idée de ce que le respect qu'on va porter, maintenant, hein, signifie, quoi. Hein. Qu'on ne jette pas les vignes, hein, ce qui reste en trop hein, de sang, hein, mettons, consacré. Hein. On sent que pour nous, on le sentirait comme un sacrilège. C'est pas évident. Hein. Si c'est tout simplement... Si c'est comme, disons... Comme pour les orthodoxes, là, ils donnent du pain béni après la messe. Là, hein, le pain béni n'est pas du pain consacré. Hein. Bon, ça mérite tout le respect qu'on veut, mais il peut arriver que ce pain béni, voilà, s'il tombe par terre, voilà, il tombe par terre. Hein, hein. On n'est pas là à ramasser des miettes. Hein, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une même... Enfin, en tout cas, ben, il dit, la formulation de cette affirmation a été le fruit de, eh bien, de débat. Et alors il continue en disant finalement, mais voilà, hein, un texte comme celui-ci devra mener, si on peut dire, à des conversions ecclésiales. Hein. Si jamais on s'y reconnaît, si jamais on l'accepte, alors d'une part, eh bien, du côté des protestants, du côté catholique en tout cas, hein, eh bien, c'est d'y aller plus doucement pour les questions d'adoration eucharistique. Hein. L'intention première, hein, c'est la réserve eucharistique pour la distribuer aux malades et non pas l'adoration eucharistique. Autrement dit, respecter dans une conversion eucharistique ce texte, eh bien, c'est de ne pas faire trop d'adoration eucharistique. Et de notre côté, on n'a pas l'air d'être tout à fait obéissant. Hein. Et de notre côté, du côté protestant, hein, voilà. Ça implique que soit mise en œuvre une meilleure façon de témoigner du respect dû aux éléments qui ont servi à la célébration eucharistique. C'est-à-dire la manière de les consommer ultérieurement, sans exclure leur usage pour la communion aux malades. Et Desbouy continue. Ce texte apparaîtra sans doute à certains protestants à la limite du supportable. Je crois que c'est du côté surtout calviniste. Hein, hein, et on comprend, hein, parce qu'on voit qu'à un moment donné, la foi, hein, non seulement au moment de la célébration, mais je dirais à ce qui est après dans la consécration elle-même. Alors, il reste que malgré tout, on est tout de même devant un texte. Bon, je reste là. Et il y a eu des commentaires. Hein. Enfin, on voit bien qu'à un moment donné, on a des mots, d'autres mots. On met des contenus parfois différents, hein, malgré tout, même sans s'en rendre compte derrière les mêmes mots. Ou bien on emploie des mots différents, mais finalement, on dit à peu près, on essaie de redire la même chose. Mais je dirais tout simplement ici, comme réaction, hein, eh bien, celle eh bien, du cardinal Journet hein, à cela. Dans la perspective protestante, la présentation on vient de lire de la présence sacramentelle du Christ est parfaitement claire et recevable. Hein, dans la perspective protestante. Mais proposée par des catholiques à des catholiques, on la croirait calculée tout exprès pour leur faire oublier le dogme de la transsubstantiation. Hein? Voilà. Hein? Insister comme on le fait sur l'immédiate présence du pain dans l'Eucharistie, c'est rendre impossible l'immédiate présence du Christ et de son corps dans l'Eucharistie. Et dès lors, l'Eucharistie cesse d'être adorable. Dire par exemple que le pain et le vin sont des sacrements, voilà, c'est évident, c'est occulter la doctrine de la conversion eucharistique et adopter la position de Calvin, puisque Calvin le disait, en la matière. Et il termine comme ceci à la fin. Adorer Jésus est un appel plus fondamental encore et plus impérieux que de le porter au malade. Bon, peu importe, on voit à peu près où il se situe. On voit tout de même que malgré tout, la question de ce qu'on appelle la présence réelle, quoi qu'il en soit, demeure tout de même au cœur des débats. Si j'avais eu le temps, parce qu'il n'y a pas le temps, peut-être que je dirais un mot la fois prochaine. Enfin, la grande question, elle est tout de même celle-ci. Toutes les théologies actuelles, essaient de rendre compte du fait tout de même que ce n'est pas seulement des apparences qui sont là. Que, eh bien, le Christ se dit précisément, puis se donne à manger à travers, eh bien, c'est du pain qui nous est donné et en lequel, eh bien, il nous donne sa vie. Et donc, de ce point-là, à rendre compte du signe. Alors, il y aura d'autres mots qui seront employés, on dira c'est du pain, mais la finalité est différente. Donc, il n'y a pas un changement de substance, il n'y a pas une transsubstantiation, mais il y a un changement de finalité. C'est pour autre chose. Mais le pain est là, il change de finalité. Ou alors, il change de signification. Le pape, même Paul VI, disait, oui, très... ce sont des voies à explorer. En tout cas, pour l'instant, on ne trouve pas d'autre mot que ce mot de transsubstantiation pour dire que tout de même ce qui est, ce qui nous est donné. Alors, je voyais dernièrement un volume qui vient que je lis, qui est bien fait, je ne vous présente pas du tout pour le critiquer. Salah Mollard, Michel, l'Eucharistie où tout est changé. En un sens, tout est changé sauf le pain. Parce qu'au fond, il faut que le pain reste là pour que précisément il soit, eh bien, à travers lui puisse s'exprimer l'intention du Christ de nous rejoindre, à travers lui puisse s'exprimer aussi, eh bien, notre relation avec lui. Donc, on voit, et c'est un volume bien fait, mais tout est, on pourrait dire, tout est mis sur la transsignification. Transsignification, c'est le pain qui parle en ce sens qui dit qui le Christ veut être pour nous. Et en même temps, eh bien, c'est le domaine de la relation. On pense les choses, mais on ne peut pas les penser indépendamment de la relation qui s'établit et qui s'établit entre le Christ et nous. Donc, autrement dit, malgré tout, et en même temps, je dirais, je ne le critique pas, je dis tout simplement que c'est suggestif, vous voyez ce que je veux dire, mais que pour moi, la grande question finalement, voyez-vous, c'est que le Christ y rentre en relation avec nous, voilà. Mais au point de départ de cela, il rentre en relation avec son Père. Le sacrifice, c'est s'offrir à son Père. Pour nous, vous voyez ce que je veux dire, c'est parce qu'il s'offre à son Père qu'il rentre en relation avec nous. Autrement dit, c'est pas seulement la relation que nous avons, lui, nous, qui nous met au niveau finalement du repas. Mais avant le repas, au fondement du repas, il y a tout de même ce fait que pour nous, il s'est d'abord offert à son Père. Et il dit, et cela le dit dans ce qu'il est, avant d'être ce qu'il est pour nous. Enfin, il y a un équilibre entre, me semble, dès qu'on loupe un peu, on laisse de côté la notion de sacrifice, pour en rester à la notion de repas, on a constamment des rétablissements à faire, hein, pour pouvoir. Alors, j'ai pas envie de dire que la notion de sacrifice comme telle implique la transsubstantiation, mais elle fait que c'est pas seulement la relation que lui a avec nous, c'est pas seulement le repas, hein, hein, mais à un moment donné, c'est le mystère de sa personne, quoi, pour elle-même. Restons-en là, mais toute la vie, on voit bien que de nos jours, hein, voyez, je vous dis ça seulement parce qu'il prend les exemples qu'il prend, que voulez-vous, il ne parle pas de transsubstantiation, mais de transposition, peut-on dire. Le pain est là, mais il prend un nouveau sens. Hein. Il établit une nouvelle relation, hein, entre le Christ et nous. Et cela, c'est une bonne chose. Hein, hein. Nous en restons là, mais la fois prochaine, bon, nous parlons davantage. Il faut bien passer à la deuxième partie maintenant. Hein. On a vu, on est dans le canon encore de la messe. Là, on passe à la liturgie de la communion à partir du pater. On ne fait que suivre la messe. Hein? Et finalement, la dernière heure, ce sera l'adoration eucharistique.